Et Dieu vit que cela était bon. Pour mettre en résonance le texte biblique de la création du monde avec le discours scientifique sur l'univers. Une émission proposée par Ivar Drouel.
Septième jour. Et si c'était le jour le plus important? Ce jour de repos, que se passe-t-il? Apparemment rien. Dieu, dans les six étapes précédentes, par sa parole créatrice, a mis l'univers en place, le mouvement des étoiles et la vie sur la terre, monde animal et végétal associé, avec les humains à la pointe de son acte créateur, hommes et femmes, créés à l'image de Dieu et acteurs d'un monde à construire. Étape après étape, Dieu a vu que cela était bon. Il ne s'agit pas maintenant de simplement se réjouir du travail accompli. Il ne s'agit pas de souffler après un effort. Ce n'est pas un temps de relâchement. Le septième jour, Dieu contemple son œuvre pour que nous la regardions aussi. On a ressenti ce flot de bonté, jour après jour. Vraiment, Dieu se donne dans sa création. Croissez, multipliez, allez faites des disciples et que votre liberté soit une offrande. L'activité scientifique du siècle dernier nous a décrit ce Big Bang que l'on date à plus de 13 milliards d'années, limite que peut-être la science à venir reculera encore. Big Bang qui a donné naissance à des milliards de galaxies et de systèmes solaires, et notre système solaire, déjà vieux de 4,5 milliards d'années, et la planète Terre y accueille la vie depuis environ 3 milliards d'années. Le don de la vie, c'est le message profond de ce texte de la Genèse. Le texte a dévoilé chaque jour un peu plus la richesse, la diversité, la puissance du monde vivant. Et au sixième jour, il place les humains, hommes et femmes, au cœur de cette épopée. Les chercheurs sont nombreux qui explorent l'évolution du vivant, encore pleine de mystères. Année après année, au rythme des découvertes, des analyses, des hypothèses, on découvre une complexité étonnante, une intelligence créatrice qui suscite l'émerveillement. Plus fort que la simple idée d'espèces figées dans leurs caractéristiques, on comprend de mieux en mieux le mouvement de la vie qui s'adapte aux environnements les plus extrêmes et qui trouve des chemins pour se développer. Écoutons ce dernier moment de la création que raconte ce texte biblique. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toutes leurs armées. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au septième jour il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait alors chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut la genèse du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ce septième jour n'est pas la fin de l'histoire. C'est même le commencement. Premier texte biblique, il sera suivi de beaucoup d'autres. Textes de sagesse, exhortation des prophètes, le chant des psaumes, les histoires du peuple hébreu. Pour entrer dans ce nouveau monde, la musique d'Olivier Messiaen, le quatuor pour la fin des temps, écrit alors qu'il est prisonnier en Allemagne et que l'avenir est sombre. Et pourtant, il y a de la lumière dans cette composition de 1940, Liturgie de cristal.
Thank you.
Au septième jour, on se souvient aussi. L'écrivain Frédéric Boyer a publié avec le dessinateur Serge Bloch « Bible, les récits fondateurs », 520 pages de dessins et de textes lumineux. Il résume ainsi la création du monde. 10 fois, Dieu prit la parole. Une première fois pour prononcer les mots « lumière » et « nuit » et « créer ». Une deuxième fois pour séparer la voûte du ciel des eaux, une troisième fois pour séparer la terre des eaux, une quatrième fois pour faire pousser les plantes et les arbres, une cinquième fois pour fabriquer les lumières du ciel, les astres, le soleil et la lune, une sixième fois pour faire apparaître une foule vivante dans les eaux et une foule volante dans le ciel, une septième fois pour dire à tous dans les eaux et dans le ciel d'être féconds et de se multiplier, une huitième fois pour donner naissance à tout ce qui vit et respire sur la terre, bêtes, sauvages, bestioles, selon chaque espèce, une neuvième fois pour faire un Adam à son image, mâle et femelle, et en faire les maîtres de douceur du poisson, de l'eau, de toutes les bêtes de la terre. Une dixième fois pour donner les seuls végétaux comme nourriture à tous les vivants sur la terre. Il y a un poème assez étonnant de Marguerite Yourcenar qui montre Dieu regardant son œuvre. Marguerite Yourcenar est une femme de lettres, née à Bruxelles en 1903. Elle fut la première femme élue à l'Académie française en 1980. La création. Et Dieu se promena et regarda bien attentivement son soleil et sa lune et les petits astres de son firmament. Il regarda la terre qu'il avait modelée dans sa paume et les plantes et les bêtes qui remplissaient son beau royaume. Et Dieu s'assit et se prit la tête dans les mains et dit « Je suis encore seul, je vais me fabriquer un homme demain. » Et Dieu ramassa un peu d'argile au bord de la rivière et travailla, agenouillé dans la poussière. Et Dieu, qui lança les étoiles au fond des cieux, Dieu façonna et refaçonna l'homme de son mieux, comme une mère penchée sur son petit enfant bien-aimé. Dieu peina et se donna du mal, jusqu'à ce que l'homme fût formé, et quand il l'eut pétri et repétri, dans cette boue faite à image, Dieu souffla l'esprit, et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Ce septième jour, nous aussi regardons ce monde qui est mis en mouvement et pensons à la part que les humains prennent dans l'œuvre créatrice. Cela nous oblige à constater les dégâts que l'humain provoque vis-à-vis de lui-même comme de ce qui l'entoure. L'humain porte en lui le drame de la volonté de puissance et de domination. Il pille les sols, exploite les faibles, détruit sans raison. Le second texte de la création, l'histoire d'Adam et Ève, raconte ce drame. Il y a le fruit ambigu du pétrole, une énergie pour tous. Mais aussi en cherchant loin dans les sols les restes des végétaux enfouis il y a des millions d'années, en trouvant cet or noir, on a développé le goût de la puissance, de la consommation débridée, et le ciel se remplit de molécules qui chaque jour augmentent la chape qui risque de nous étouffer. Les humains, comme l'avaient compris les sages qui ont écrit ces textes des origines, sont toujours confrontés à cette terrible illusion. Devenons les maîtres, approprions-nous pour notre profit les fruits de la connaissance du bien et du mal. Il faut asseoir notre pouvoir. Le plus beau fruit de cet arbre ne serait-il pas ce feu nucléaire que l'on brandit comme un signe pour la paix? Ce feu nucléaire qui peut tout engloutir? C'est l'idée que développera le philosophe chrétien Lanza del Vasto dans les années 60. Le septième jour n'est donc pas un jour de tout repos. Écoutons la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Le septième jour ouvre sur l'avenir, sur une autre histoire qui est engagée. Il y a le sacrifice d'un homme il y a plus de 2000 ans, injustement condamné, ignominieusement mis à mort. Il faut prendre le temps de regarder sur la croix, il est abandonné. De cette mort naît l'espoir insensé de la résurrection. Pour la nature humaine pervertie par l'esprit de domination et la recherche de son seul profit, s'ouvre un autre chemin. C'est l'aurore d'une nouvelle création. Le vivant, revenons au vivant, car c'est le message du texte biblique, Dieu vit que cela était bon. Contempler et réfléchir. On l'a vu au cours des séquences précédentes, la biodiversité forme le maillage de vie dont nous dépendons pour la nourriture, l'eau, les médicaments. Plus de la moitié du PIB mondial dépend de la nature. Plus d'un milliard de personnes ont besoin des forêts pour assurer leur subsistance et les océans absorbent plus d'un tiers de toutes les émissions de CO2. Elles jouent un rôle vital dans la pollinisation des cultures, la purification de l'eau, la régulation du climat. Oui, la Terre accueille le mystère de la vie dont nous comprenons de mieux en mieux la richesse de sa diversité, la puissance de son adaptation. À nous de nous mettre au service de la vie avec conscience et confiance. Contempler et réfléchir. Et relire aussi. Écouter encore les histoires d'un monde qui naît. Il y a Noé qui, avec détermination, volonté et intelligence, sauve le vivant des drames de son temps, tout le vivant. Il ne choisit pas, tout est nécessaire. Avec son habileté de charpentier, de marin, d'éleveur, d'agriculteur, il saura, à la fin du déluge, danser de joie. Et relire aussi, écouter encore les histoires, il y a Jonas et sa déception. Pourquoi la destruction annoncée ne se réalise point? Parce que sa parole a été entendue et que la prise de conscience de la population de Ninive a renversé l'inéluctable. Et cette bonne nouvelle de Jésus que l'on a voulu faire taire en le mettant à mort devient parole proclamée, parole vivante, le monde ancien s'en est allé. Musique du Nouveau Monde, deuxième mouvement. Pour terminer ce parcours dans le texte biblique de la Genèse, on pourrait relire Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, né en 1881, est un paléontologue et un théologien, un scientifique et un prêtre jésuite. Il a développé une vision puissante de l'avenir du monde. Pour Teilhard, l'évolution est un processus global qui associe les dimensions matérielles et spirituelles. Il propose une vision où la matière et l'esprit sont liés et évoluent ensemble vers une complexité et une conscience accrue. Cette perspective dépasse la simple notion de sélection naturelle. Selon lui, l'évolution ne se limite pas à un processus biologique, mais inclut également un aspect spirituel et conscient. Il décrit une humanité qui progresse vers une unification spirituelle et intellectuelle, guidée par l'amour et la conscience. Il a, écrit-il, la conviction plus ou moins agissante et passionnée que l'humanité prise dans sa totalité organique et organisée a en face d'elle un avenir. Avenir formé non seulement d'années qui se succèdent, mais d'états supérieurs à gagner par voie de conquête. Considérée dans ses origines profondes, cette inclinaison de notre être vers du plus-être attendu est aussi ancienne et aussi universelle que le monde lui-même, aussi loin que nous puissions les suivre en arrière, et jusque dans leurs manifestations les plus humbles, les progrès de la vie nous apparaissent mus par quelque chose qui les dépassait. Les innombrables essais de la nature ne modulent-ils pas un même acte de foi tâtonnant obstinément vers une issue quelque part, toujours plus haut, en avant ? Teilhard de Chardin meurt le 10 avril 1955, le jour de Pâques, à New York. Contempler et réfléchir sur ce monde qui vient de si loin. Réfléchir dans un esprit d'écoute et de dialogue, réfléchir avec une science respectueuse et respectée, et contempler avec émotion, sérieux, joie, humilité. Regardons vers l'aurore qui pointe. Aurora, extrait Xavier Ardourel. Le septième jour ne marque pas la fin de la création. Le septième jour ouvre le temps de l'avenir, comme pour Pâques. C'est le commencement d'un monde nouveau. À chacun et à tous, bonne fête de Pâques. Grand merci à Radio Présence et à ses équipes.